Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair, sommet pour l'océan qui s'ouvre aujourd'hui à Brest et pour 3 jours en la présence d'une vingtaine d'États. Un océan fatigué par la surpêche, le plastique et le réchauffement climatique. L'Info C'est clair est intitulé « Océan, la poubelle de l'humanité ». Nos invités, Frédéric Danhé, vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales, auteur de Rencontres avec des écolos remarquables, c'est chez Delachaux-Niesley. Françoise Vimeux, vous êtes climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Et Émilie Torgemène, vous êtes reporter environnement au Parisien aujourd'hui en France. On peut retrouver dans le Parisien ce matin votre article, cet article, Les bienfaits insoupçonnés de la mer. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, ce sont des images qui ont choqué jusqu'à l'étranger. C'est un gigantesque banc de poissons mort au large de La Rochelle et en cause un chalutier géant, un navire usine traqué par l'ONG Sea Shepherd. Voyez ces images, ce sujet de Anaïs Barre.
Des poissons morts par dizaines de milliers, flottant à la surface de l'eau. Une nappe morbide de 3000 mètres carrés découverte dans le golfe de Gascogne par Sea Shepherd, association de défense des océans. Un banc de merlan bleu asphyxié, sorti du filet géant de ce monstre des mers, le Margiris. Un chalutier lituanien, l'un des plus grands du monde, 143 mètres de long. Le navire aurait-il rejeté volontairement du poisson jugé peu rentable ? C'est la question posée aujourd'hui par Sea Shepherd, dont les membres suivent et surveillent ces chalutiers-usines. L'ONG dénonce un gaspillage inutile et choquant des ressources marines.
C'est une catastrophe écologique, non seulement pour la population de merlan bleu, mais en fait pour l'écosystème marin dans son ensemble, parce qu'on a beaucoup de navires-usines qui pêchent donc ces poissons pélagiques, donc les merlans, les sardines, les harengs, qui sont la nourriture des dauphins. Des navires qui sont capables de capturer autant de poissons en si peu de temps, ça pose la question de la survie de ces espèces.
Si l'association suspecte ce navire d'avoir rejeté du poisson indésirable, le capitaine dément et affirme que son filet s'est rompu accidentellement à cause d'un volume de poissons trop élevé. Le centre de surveillance confirme que le Margiris a bien déclaré un incident et ne serait donc pas en infraction.
On a pris contact avec le navire pour effectivement déjà comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Le navire a eu un incident, effectivement son chalut s'est rompu, il a perdu une partie des poissons qu'il avait capturés. Il a bien effectué un message de déclaration de rejet.
Un chalutier déjà au cœur d'une polémique en 2019. Il était là aussi accusé de rejet de poissons. Le navire, usine des mers, a été interdit de pêche dans les eaux australiennes car ses chalutiers et leurs filets titanesques prennent aussi au piège des espèces protégées, comme les dauphins.
Émilie Torgemène, alors l'enquête est toujours en cours, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une pratique un peu honteuse qui consiste à rejeter le poisson non rentable. C'est quoi ce poisson non rentable dont on n'aurait pas besoin et qu'on rejetterait mort dans les océans?
Alors, c'est une pratique honteuse et c'est un délit, c'est totalement interdit. Là, c'est 3 km de poissons, 3 km carrés de poissons morts. L'idée, ce serait, ce que dément le capitaine, que ces poissons ont été rejetés car ils encombraient les cales. Le merlan, ça se vend, c'est une espèce qui n'est pas protégée et c'est une espèce qui rapporte peu. Donc, pour ne pas encombrer les cales ou pour ne pas revenir à port déchargé, on jette. Et on va pêcher des choses plus valorisées, peut-être du bar. Je ne suis pas très calée sur les saisons de pêche en ce moment, mais en tout cas quelque chose qui coûte plus cher et qui rapporte plus que du merlan.
Mais pourtant, on se dit que le poisson peut valoriser, comme vous dites. Il peut peut-être servir pour nourrir, je sais pas, d'autres poissons dans des fermes piscicoles là, en Norvège. Vous savez, où il y a de grandes fermes avec des saumons, non?
Oui, alors ça aussi, c'est...
À quoi ça sert le poisson qu'on pêche, pour dire?
Alors, le poisson qu'on pêche, il y a évidemment celui qu'on mange, et puis il y a celui qui sert à faire manger d'autres poissons.
Voilà.
L'exemple du saumon de Norvège est très intéressant. En fait, on estime qu'il faut entre 1 à 5 kilos de petits poissons, on parle de minoterie, pour faire 1 kilo de chair de saumon. Et le saumon, c'est un poisson qui est très, très consommé. Alors, en Norvège, ils essayent de progresser un peu, justement, d'aller plus vers 1 kilo pour 1 kilo. Aux dernières nouvelles, c'était plutôt 1,5 kg de petits poissons pour nourrir les saumons qui sont labellisés ASC. Donc, c'est ceux qui sont censés être les plus durables, justement. Donc, ça pose aussi l'aquaculture, l'élevage de poissons, qui peut être...
Est-ce que c'est la solution, ça, après tout? Nous, les animaux, on les élève dans des fermes. Pourquoi est-ce que dans la mer, on les pêche à l'état sauvage, j'allais dire ?
Ah bah alors là, il y a deux choses. Alors le saumon sauvage, il n'y en a pas beaucoup et ça coûte très très cher. Mais la question, c'est où ça peut être une solution. Après, il faut voir comment on les élève et quel poisson on élève. Nous, on parlait de saumon. Donc c'est le top de la chaîne alimentaire, d'accord, celui qui mange beaucoup de poissons. Il peut y avoir des élevages d'autres poissons qui sont des végétariens, enfin qui mangeraient des algues ou des huiles qui sont moins consommatrices et qui n'alimentent pas la surpêche. Enfin, le conseil vraiment de consommateurs un peu ras des pâquerettes, mais important parce qu'à la fin, c'est aussi nous qui détenons les solutions, c'est il faut varier les poissons. Le saumon, c'est bon, mais il y a d'autres poissons qui sont moins...
On est monomaniaque, il n'y a que quelques rares espèces de poissons qu'on mange. Frédéric Danhé, pourquoi est-il interdit en Australie ? Est-ce qu'il y a cette idée qu'après tout, on pêche trop, quoi, et que les poissons sont tout simplement l'espèce en danger ?
Ouais, enfin, c'est d'une complexité infinie la pêche, parce que tout dépend de l'espèce de poisson et tout dépend du lieu où on la pêche. Le merlu, par exemple, il se porte très, c'est très bon le merlu, il ne faut pas trop le cuire, il se porte très très mal en Méditerranée. Par contre, il se porte de mieux en mieux sur la côte atlantique. Globalement, à l'échelle du monde, ce qu'on appelle les stocks qui sont pêchés de façon peu durable augmentent année après année. À l'échelle de l'Europe, par contre, c'est l'inverse, ça s'améliore. Et à l'échelle de la France, ça s'améliore encore un peu plus. Mais surtout sur
donc on est vertueux en Europe, mais dans le reste du monde...
Parce qu'on a les moyens de contrôler, parce qu'on a une police de l'environnement, parce que les prises accessoires, ce dont il est question là, ont été interdites. C'est-à-dire que normalement, les pêcheurs ont l'obligation de tout ramener à bord et donc de ne rien rejeter. Et ils peuvent être sanctionnés durement s'ils ramènent trop à bord de poissons qu'ils ont pris, sachant très bien qu'ils ne pourraient pas les vendre. Mais il y a plein de pêcheurs qui continuent à agir comme avant, c'est-à-dire ils regardent sur leur écran, il faut le voir ça dans un chalutier, il y a le cours du poisson qui s'affiche. Et si vous avez un poisson dont le cours vient de s'effondrer, on a plutôt tendance à le foutre dehors. Et pour finir de répondre à votre
question... Mais ce qui est interdit...
Ce qui est strictement interdit, mais selon le drapeau sous lequel on navigue, si l'on est à une certaine distance des côtes... Pas vu, pas pris, en gros c'est ça. Voilà. Sauf que le satellite est là. Quand même, sauf qu'on a une marine nationale, sauf qu'on a une législation, ce qui fait que dans les terres australes et antarctiques françaises, par exemple, la légine, qui était un poisson trop pêché, aujourd'hui ne l'est plus, grâce à ça. Et
Françoise Vimeux, il y a la surpêche, parce qu'on aime le poisson un peu trop, d'ailleurs. Est-ce que le fait que la température de la mer augmente, et si oui, d'ailleurs, de combien a-t-elle augmenté, est-ce que ça a un impact sur l'espèce et les poissons dans l'eau ?
Alors oui, donc déjà pour de combien. Alors déjà l'océan se réchauffe, hein, comme l'atmosphère. Ce qui est important de dire, c'est que d'ailleurs l'océan emmagasine plus de 90% de l'énergie excédentaire, de la chaleur excédentaire que nous mettons dans le système climatique.
Heureusement que l'océan est là.
Alors heureusement, en fait, il nous a protégés. Alors on sait que son rôle protecteur ne va pas forcément durer comme ça dans le temps, parce qu'il devient moins efficace, par exemple, en tant que puits de carbone. Mais il se réchauffe. Alors il se réchauffe un petit peu moins que les continents. Si on regarde les 10 dernières décennies, en moyenne globale, les continents se sont réchauffés de 1,6 degrés par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un petit peu moins sur la surface de l'océan, c'est 0,9 degrés. Pourquoi ? Parce que lorsque l'océan se réchauffe, il se réchauffe sur toute sa profondeur.
Eh oui.
Donc, en quelque sorte, la chaleur diffuse. Alors, pour répondre après à votre question, oui, le réchauffement de l'océan, ça a divers impacts. Il y a un impact sur les pêches. Le fait que le climat a un impact sur les pêches, ça c'est connu depuis très longtemps, et même la variabilité naturelle du climat vient moduler en fait les rendements des pêches. On sait par exemple que dans le Pacifique, lorsqu'il y a ces événements ENSO, la phase chaude de ces événements est appelée El Niño, l'enfant Jésus, parce qu'en fait ça modifie les courants océaniques, ça ramène le long des côtes des eaux froides remplies de nutriments, et donc les poissons sont heureux et les pêcheurs aussi. Donc il y a vraiment dans les deux sens, mais au niveau du réchauffement lui-même, ça change effectivement les rendements de pêche, ça modifie la répartition des types de poissons suivant l'endroit où on se trouve. Donc on avait l'habitude de pêcher un certain type de poisson. Avec le réchauffement climatique, avec l'augmentation de la température de l'océan et la modification des courants, eh bien on va pêcher un autre type de poisson, ou alors on va en pêcher beaucoup moins, et là ça devient problématique.
Est-ce qu'il faut s'attendre à tout bêtement, hein, on ramène ça à nous, plus de méduses sur les plages de Méditerranée ou d'Atlantique dans les années à venir. Je dis ça parce qu'on dit aussi qu'il y a plus de poulpes. Les pêcheurs bretons commencent à avoir du poulpe. Ils disent avant on avait des crabes, maintenant on se retrouve avec.
Mais ça, c'est les autres choses. C'est que les poulpes avaient été dévastées en 62-63 par un hiver majeur et les populations ont mis des années à se reconstituer. Puis il y a une variabilité naturelle. C'est comme pour l'anchois qu'on a du mal à mesurer parce que c'est des espèces qui se reproduisent beaucoup. Par contre, on aura plus de lotes à Dunkerque, on aura plus de coquilles Saint-Jacques, les populations de coquilles Saint-Jacques augmentent. On aura plus de merlus en Bretagne, par exemple. En fait, tout ce qui est au sud remonte vers le nord. Par contre, ce qu'on constate, je parle sous votre contrôle, François, c'est que la taille moyenne des poissons a tendance à diminuer, et notamment sur les sardines, par exemple, ce qui a eu un impact sur les quotas déclarés de pêche en France. On a déclaré moins de tonnage alors qu'on a pêché plus, parce que la taille des sardines, des anchois, des maquereaux a tendance à diminuer.
Alors attention à ne pas pêcher trop de poissons. On parlait de la Bretagne. Attention aussi sur terre à ne pas élever trop de porcs et à être intensif, parce que ça a des répercussions sur les jolies plages de Bretagne qui sont recouvertes d'algues vertes. Vous voyez ce sujet, les algues vertes qui reviennent, de Dorothée Olyric.
Fermer une plage, c'est l'ultime recours. Celle de l'hôtellerie dans la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc demeure désespérément interdite depuis le mois de juillet dernier. L'algue verte, appelée aussi laitue de mer, prolifère, pullule, même en plein hiver, à cause des conditions météo clémentes, d'une eau peu profonde et d'une baie abritée.
Si on constate des
pour les riverains, c'est l'exaspération depuis de trop nombreuses années.
C'est malheureux parce qu'on savait d'où ça provenait et on n'a pas voulu nous écouter. On a laissé faire.
Une horreur.
Du rendement.
Le cœur du problème des algues vertes serait la pratique intensive de l'agriculture. Les élevages industriels, comme dans la filière porcine, rejettent énormément de nitrates dans les sols et les cours d'eau. Les efforts de certains agriculteurs ont permis des progrès et l'enveloppe allouée par l'État pour lutter contre le phénomène est passée de 5 à 10 millions d'euros. Mais les algues vertes continuent à polluer la Bretagne.
Bah oui. Mais justement, Françoise Vimeux, on était en train de se dire, on va finir par manger des insectes. On ne peut pas manger de poissons, à part le merlu, vous nous avez dit.
C'est pas mal, mais bon. Côte atlantique.
Il faut faire attention. On ne peut pas manger de cochon ni de bœuf, parce que là aussi, ça fait de l'élevage intensif, ça fait des algues vertes. C'est un peu l'écologie punitive quand même.
Alors oui, on rigolait parce que vous nous proposiez de manger des insectes. Alors là, c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'on peut manger à peu près ce qu'on veut, mais oui, effectivement, on va vraiment avoir une image d'écologie punitive. Donc je pense que là, il faut quand même aborder une question de fond, c'est la diversité de notre alimentation, et puis réfléchir dans qu'est-ce qui est, je dirais, assez simplement bon ou mauvais pour l'environnement, sachant qu'il n'y a pas de solution miracle, et qu'il faut être conscient, en fait, et peut-être faire selon aussi ses convictions, et puis rester raisonnable.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que cette alimentation un peu standardisée qu'on a développée au XXe siècle, quand on va dans les supermarchés, on a toujours du bœuf, du merlu, du poisson, etc., il faut peut-être revenir à quelque chose de... Manger ce qu'on trouve, c'est ce que faisaient nos grands-parents, hein, non, j'imagine.
Alors, manger ce qu'on trouve localement, déjà.
Localement, oui,
non, mais c'est ça. Ça paraît quand même assez évident, et ça ne concerne pas que la viande ou le poisson. Hein. Acheter des asperges du Pérou, c'est peut-être pas une bonne idée. On fera un potage de courgettes, c'est aussi bon. Donc voilà, réfléchir à ce qu'on achète. On sait quand même que la viande, c'est un secteur qui est émetteur de gaz à effet de serre. J'entends beaucoup en ce moment une idée fausse qui est de dire que les émissions de méthane qui sont dues au secteur alimentaire de la viande sont des bonnes émissions, qu'il y a du bon méthane et du mauvais méthane. Hein, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de bon et de mauvais méthane. Une molécule de méthane, toute molécule de méthane qui est émise dans l'atmosphère participe à augmenter encore un peu plus le réchauffement de la planète. Et donc, il faut vraiment faire attention à ces discours.
Donc, il n'y a pas que le transport, il y a notre alimentation qui va devoir évoluer avec la révolution alimentaire, avec la conscience écologique. Alors, deuxième grand mot, j'allais dire, le deuxième grand mal qui fait beaucoup de mal à l'océan, c'est évidemment le plastique. Le plastique qui vient de terre, hein, le plastique, il n'est pas en mer, mais il se retrouve en mer. Et je vous propose tout simplement, pour bien se rendre compte d'où vient ce plastique, de voir ce reportage. Ça se passe dans la Seine, à côté de Paris. Et bien, vous allez voir, la Seine est un dépotoir de plastique. Reportage de Florence Mathieu et Virginie Travers.
Des dépôts sauvages sur les berges, des milliers de déchets plastiques qui flottent à la dérive. Voilà le quotidien des mariniers du Belenos, le bateau des pollueurs qui sillonne les Hauts-de-Seine.
Il y a de la brique, il y a de la ferraille.
La Seine reste un fleuve dépotoir.
On peut avoir nettoyé aujourd'hui, ça se trouve demain on revient ou après-demain on revient et c'est rebelote.
En seulement 2 jours de récolte, près de 700 kilos de déchets en tout genre.
Voilà, on a un Vélib, on a un caddie qu'on a récupéré dans l'eau aussi. Et puis après, c'est beaucoup de déchets plastiques, hein, vous voyez, même des petites bonbonnes de gaz.
10 ans que le bateau traque sur la Seine les détritus qui l'encombrent. Et chaque année, au moins 350 tonnes sont ramassées. Les chiffres ne diminuent pas. La pollution est présente même où on ne l'imagine pas. Derrière ce port de plaisance des Yvelines, dans les plus petits bras de la Seine, un spectacle désolant. On ne distingue même plus l'eau.
Des ballons de foot, des pneus, des bouteilles d'huile d'essence, boîtes de conserve, des bouteilles de lait. Donc la dernière fois, on voyait les cygnes qui marchaient carrément sur les îlots de déchets.
Quelques bénévoles essaient d'éliminer la décharge flottante. Ils se feraient un chemin en paddle, mais la tâche est gigantesque, décourageante.
Mais là, on a besoin de monde. On a besoin de monde, de matériel, peut-être d'embarcation aussi pour dégager les bois morts, des cordes, peut-être même des tronçonneuses, des cisailles.
Au gré des crues, ces poches de pollution se multiplient. Les emballages alimentaires, les canettes, les sacs jetés dans les rues se retrouvent aussi dans le fleuve après un long voyage. Pour piéger une partie de ces ordures, il y a peut-être une solution très simple. Installer des filets, comme ici à Goussainville, à la sortie du réseau de récupération des eaux de pluie.
Chaque orage, c'est entre 1,8 tonne et 2,3 tonnes de déchets.
Aux abords de la Seine, pour l'instant, on ne dénombre que 6 dispositifs de ce genre.
Pour vraiment avoir une efficacité digne de ce nom, il faudrait entre 100 et 150 filets. Notre ambition, c'est d'intercepter 80% des déchets qui finissent dans la Seine, bien évidemment, mais au-delà de la Seine, dans les mers et les océans.
Ces filets nécessitent un entretien régulier. C'est aux municipalités de le prendre en charge. Les déchets contenus dans ces pièges sont actuellement analysés dans ce laboratoire. Premier constat, il y a énormément de polystyrène dans la Seine.
Il est léger, fragmentable, et du coup, on le retrouve vraiment partout. En plus, il flotte très bien. Du coup, il va venir tapisser les berges des différentes rivières.
Ces recherches financées par le gouvernement aboutiront peut-être à l'interdiction de certains matériaux polluants. Le temps est compté. En ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris en 2024, la Seine doit accueillir plusieurs épreuves.
On va enfin nager. Sauf qu'Émilie Torgemène, la Seine, elle se déverse dans la Manche. Donc tout ce plastique, ça veut dire qu'il se retrouve dans l'océan. Alors on ne le voit plus quand c'est dans l'océan ?
Oui, ça devient beaucoup plus difficile. D'abord, on ne le voit plus parce qu'il y a une partie qui coule. Mais surtout, ça devient une espèce de soupe de plastique. Là, il parlait du polystyrène, le chercheur parlait de polystyrène qui se fragmente. Mais tout le plastique se dégrade, alors très lentement, c'est le problème. Hein, et devient une espèce de soupe qui flotte entre deux eaux et qui pollue énormément nos océans.
Il y a la fameuse fondation Hélène MacArthur qui dit, je ne sais pas ce que vaut ce chiffre, qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. C'est effrayant, ça.
C'est vraisemblable. Hein. On en rejette 10 millions de tonnes par an. Donc, c'est énorme comme quantité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ce plastique, il vient...
Mais qui jette ce plastique ?
Nous, en fait, il vient vraiment de la terre. Alors, il y a 3 filets et peut-être 2 bouteilles qui tombent directement des bateaux. Mais vraiment, la problématique, c'est nos déchets et nos déchets terrestres, y compris les plus petits. J'en profite pour faire un peu d'autopromo. Une des problématiques qui avait été soulignée les dernières années, c'était les pailles qu'on a interdit, et ça fait partie des déchets qu'on retrouve le plus quand on ramasse sur les plages. Mais maintenant, une grosse problématique, c'est les mégots. Les mégots de cigarettes, ce n'est pas du papier, c'est du plastique. Ça met un temps fou à se dégrader. C'est chargé de 2000 à 4000 toxiques. Et donc, du coup, c'est là mon autopromo. Nous, on appelle samedi prochain nos lecteurs à venir nous aider à ramasser les mégots sur les Champs-Élysées. Alors, ça a l'air d'être un petit geste, mais on sait qu'on va en ramasser pas mal. C'est avec l'association Zéro Mégot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces nageurs qui avaient descendu la Seine à la nage. Voilà. Et donc, on se dit que nos lecteurs, et puis bon, bah, peut-être
parce que
ceux qui nous
regardent
aujourd'hui...
Sinon, les mégots, ça passe dans les égouts, des égouts dans la Seine et de la Seine dans le...
Dans la mer. C'est irrattrapable.
Frédéric Danhé, je lis ce matin dans Les Échos, plus de 700 espèces vivantes dans les mers ont été répertoriées pour avoir ingurgité du plastique.
Ben c'est quasiment tout. On retrouve, vous savez, le plastique, il est brassé par la houle, par les mouvements marins, ça devient des microparticules, voire des nanoparticules de plastique, qu'on retrouve sur la surface, l'enveloppe de plancton végétal dans l'océan austral, c'est-à-dire en Antarctique. En fait, les plastiques, ils nous renvoient la figure, ce qu'on avait oublié, c'est-à-dire tous ces polluants organiques persistants qui ont été déversés dans la mer parce qu'on les a utilisés, pesticides notamment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été interdits dans les années 70 et qu'on retrouve dans le lait maternel des baleines bleues au fin fond de l'Antarctique, aujourd'hui encore. C'est juste le symbole de... Et c'est ce qu'on ne verra pas d'ailleurs à la grande conférence qui se tient à Brest, on ne va pas parler de la Terre. Alors qu'une des grands problèmes de la mer, vous l'avez souligné Axel, c'est ce qui vient de la Terre. Donc il y a les plastiques, il y a les polluants problématiques aujourd'hui pour les agences de l'eau qui ne sont pas traités par les stations d'épuration et qui finissent en mer, par exemple, c'est nous, c'est les cosmétiques et c'est les médicaments. Notamment les médicaments utilisés en chimiothérapie et les anxiolytiques, mais surtout les cosmétiques qui sont utilisés par chacun de nous et qui, encore une fois, ne sont pas cassés par les stations d'épuration, d'où le développement de projets urbains de construction immobilière où on viendrait récupérer en le recyclant toutes les eaux dites sales, les grises, les noires, les toilettes, les douches, pour les réutiliser en interne afin d'éviter qu'elles n'aillent rejoindre le réseau. Et puis derrière tout ça... S'il y a autant de plastique qui rejoint la Seine, c'est parce que les réseaux d'eau pluviale sont plus adaptés. Parce que dès qu'il y a, à cause de la variabilité de la pluie supplémentaire, plus importante à cause sans doute du changement climatique, on a tout d'un coup des abats d'eau en 3 jours, tombe ce qui tombait avant en 1 semaine ou en 1 mois, et les réseaux d'eau pluviale n'en peuvent plus, et tout déborde, et tout gagne les fleuves, et ensuite la mer.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs dans le reportage l'un des agents, il dit « dès qu'il pleut...
Eh ben oui. »
Tout remonte et nos canalisations en fait, ne sont plus adaptées à la violence des pluies d'aujourd'hui.
On se rappelle de ce qu'on a vu dans la vallée de la Roya quelques jours après, où on voyait la côte méditerranéenne qui était remplie de déchets en fait, qui avaient été emmenés à la fois via les réseaux pluviaux, mais aussi comme les rivières avaient débordé, tout ce qui était au bord en fait, et donc en quelques jours.
Alors cette question de la pollution au plastique, elle est encore plus aiguë dans les pays... dans les pays en développement comme l'Inde, où le traitement des déchets est moins avancé. Regardez ce sujet désolant. C'est un ingénieur qui se lamente de voir que les lacs de son enfance sont aujourd'hui totalement souillés par du plastique et qu'ils en deviennent toxiques. Reportage d'Angélique Forger.
Dans le sud de l'Inde, Bangalore, 11 millions d'habitants, est une ville qui a grossi trop vite. Celle que l'on surnomme la Silicon Valley indienne croule aujourd'hui sous le béton et la pollution. Rivières, lacs, cours d'eau en particulier sont ravagés par les déchets et les rejets d'eau usée. En plein cœur de la ville, cet étang n'a plus rien d'une étendue d'eau, mais est devenu un ramassis d'ordures en tout genre.
Il y a tellement de déchets ici. Regardez, il y a même des pneus. Et cela va rester des milliers d'années ici.
C'est le constat de ce gouffre environnemental qui l'a poussé à démissionner de son ancien poste pour se consacrer entièrement à la restauration des lacs.
Avant, les habitants buvaient de cette eau. Mais maintenant, on ne peut même pas rester ici. On ne peut même pas toucher l'eau. C'est pathétique, si triste. Ça me donne envie de pleurer.
Frédéric Danhé, en 2015, on a pris un engagement, alors peut-être pas respecté, mais de limiter nos émissions de CO2. Il est question, à Genève, il était question de prendre des mêmes engagements pour limiter nos émissions, j'allais dire, de plastique. Est-ce que des pays comme l'Inde pourraient ratifier ce genre d'accord? Est-ce qu'il y a une prise de conscience internationale? Parce que c'est bien beau, nous, d'interdire les pailles en Europe, mais il faut une prise de conscience mondiale, on se rend compte de ce plastique.
La prise de conscience, elle est là. L'Inde est un pays quand même riche, l'Inde a les moyens, mais il ne faut pas oublier que le plastique, si on l'utilise, c'est parce qu'il est plastique, il est facile à utiliser, il est léger, il est résistant, il ne coûte rien, il s'adapte à tout. Il n'y a pour l'instant pas d'autres matières alternatives que le plastique pour emballer, transporter de façon hygiénisée. On bute sur un mur. Après, c'est une question de comportement. On peut utiliser du plastique, mais si on le met dans la bonne poubelle, si on ne le balance pas, Moi, je suis derrière la forêt de Sénart. En forêt de Sénart, les gens balancent encore des trucs au feu rouge depuis leur voiture.
Eh bien, justement, une prise de conscience. Vous parliez tout à l'heure de cette opération citoyenne pour nettoyer que vous organisez samedi à Paris pour ramasser les mégots. Vous voyez, je refais de la pub.
Merci.
Sur les Champs-Élysées. Ben, regardez à Marseille. Vous savez que Marseille, il y a eu la grève des éboueurs. Du coup, pendant des semaines, les ordures se sont amassées dans la ville de Marseille. Pas de chance. Coup de Mistral et toutes les ordures se sont retrouvées sur les plages. Bah, regardez les Marseillais, certains se sont retroussés les manches et ont ramassé eux-mêmes, comme des citoyens, leurs propres déchets. Sujet de reportage de Théo Souman et Pierre-Jean Perrin.
Le Mistral a soufflé fort et éparpillé les déchets à proximité des plages. Plastique, carton, canettes ou mégots. C'est la première fois que Fabrice Villepoux se mobilise, choqué par l'état de son quartier.
Il y a des papiers de partout, des cartons. J'habite dans moi dans le quatrième et c'est un désastre en fait.
Bah là, avec tout ce qu'il y a à ramasser, je pense que c'est des week-ends. Hein. C'est des week-ends encore à passer.
Carole Bourget et sa fille, elles, sont venues spécialement du Vaucluse pour prêter main forte aux Marseillais.
C'est venu de ma fille qui a décidé de venir ici. Donc comme je l'encourage, ben, on s'est dit pourquoi pas.
La plongée, c'est ma passion et je me dis que plus tard, genre, quand j'aurai mes trois niveaux, enfin, je vais pas plonger dans une mer qui est pas nettoyée, quoi. Parce que les gens ils font pas attention.
C'est à chacun de s'y mettre.
Voilà.
Pour les associations de défense de l'environnement, ce ramassage citoyen doit servir à transformer la colère en prise de conscience.
Moi, ça me fait mal au cœur de demander encore à des citoyens de le faire, mais la preuve en est, c'est que les citoyens ont encore des choses à montrer et à montrer qu'ils aiment leur ville. Et ensuite, ça serait bien de montrer comment réduire aussi ces déchets. Travailler sur la sensibilisation, travailler sur la diminution de déchets, travailler sur le tri.
D'après les organisateurs, au moins une tonne de déchets a été collectée par les ramasseurs bénévoles ce matin. Des ordures qui seront triées, puis recyclées, pour une petite partie seulement.
Alors, je vous propose d'aller au grand large maintenant. Allez. On va retrouver en visioconférence Maud Fontenoy. Bonjour, vous êtes présidente de la Maud Fontenoy Foundation, ambassadrice pour l'éducation à la mer, hein, qui relève de l'éducation nationale. Vous serez présente à ce sommet de Brest. Maud Fontenoy, vous qui avez traversé l'Atlantique et le Pacifique en pleine mer, vous avez entendu cette petite fille qui disait « Moi, j'ai pas envie plus tard, quand je ferai de la plongée, de me retrouver face à des détritus et décharges de plastique. » Quand on est en mer, on le voit ce plastique ou non? C'est encore plus vicieux parce qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on voit quand on est en mer?
Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Non, c'est vrai que j'ai beau être une éternelle optimiste et avoir réussi à traverser, comme vous le disiez, les océans à la rame. J'avoue que quand je vois tous ces reportages, c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi être totalement désespéré. Et c'était très touchant de voir cet Indien vraiment, vraiment honteux de voir ce qu'il pouvait faire sous ses yeux. Naturellement, quand on est navigateur et qu'on a la chance en plus de partir comme j'ai pu le faire, c'est-à-dire au plus proche de l'eau, malheureusement, on croise des nappes d'hydrocarbures. Moi, j'ai croisé un frigo entre deux eaux au large de l'Antarctique. C'est terrifiant de se dire que ça, ce ne sont que les stigmates de nos vies qui viennent sur Terre. C'est-à-dire que tout revient à la mer et tel que vous le disiez avec qualité, ça revient après dans nos assiettes. Hein. Selon WWF, on mangerait 5 grammes de plastique par semaine et par individu, l'équivalent d'une carte bleue de plastique. Enfin, c'est inconcevable de se dire que en fait, tout ce qu'on a pu rejeter dans les océans depuis tant d'années parce qu'on considérait que c'était un puits sans fond, on le voit en tant que navigateur et ensuite on le voit en tant que consommateur parce que ça revient comme un boomerang dans notre assiette de sushi. Quoi.
Mais, au fond de toi, vous dites ce matin, vous expliquez dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. La mer, elle appartient à tout le monde. Et 60%, dites-vous, des océans, eh ben, au fond, c'est le Far West. On peut y faire ce qu'on veut, il n'y a pas de gendarmes. Et on peut polluer en toute impunité. C'est peut-être ça ce point qui pourrait être soulevé aujourd'hui à Brest.
Alors, ce sommet de Brest, vous imaginez bien, on attend beaucoup. Toutes les personnes dont je fais peut-être partie qui s'impliquent depuis longtemps sur cette thématique de la guerre des océans, attend beaucoup de ce sommet. Pourquoi ? Parce que c'est quand même la première fois qu'il va y avoir un sommet international porté par la France sur les enjeux uniquement des océans. Ça sera visiblement le seul sommet d'enjeux environnementaux dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et ça sera un sujet où, je l'espère, on abordera enfin les questions de fond sur ce qui fait les trois quarts de notre planète et qui sont donc les océans. Il y a une grande question de gouvernance, en effet, c'est-à-dire que 60% de la haute mer, et ça paraît dingue aujourd'hui, est actuellement sans juridiction. Ça veut dire qu'on peut y prélever, c'est ce qu'on appelle la colonne d'eau, on peut prélever tout ce qu'on veut. Et il est temps de reconnaître les océans comme bien commun de l'humanité et que les États se mettent d'accord pour réglementer. Et je pense que la France a un vrai rôle à jouer, parce que la France est la deuxième puissance maritime mondiale avec ses 11 millions de kilomètres carrés sous sa juridiction. L'Europe est aujourd'hui la première puissance maritime du monde. Et c'est à nous donc de prendre le leadership pour assurer que la planète bleue ne soit pas une planète de rechange. Il n'est pas question de reproduire en mer toutes les erreurs qu'on a pu commettre sur Terre. Et donc, il faut absolument aujourd'hui réglementer et comprendre que le fait qu'on ait finalement investi 100 fois plus dans le spatial que dans le maritime, qu'on connaisse mieux la surface de l'océan que la profondeur de l'océan, bah aujourd'hui, ça devient un problème. Parce que comme on ne connaît pas, eh ben on le dégrade et on n'a pas vu toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur nos vies quotidiennes.
Merci beaucoup, Monde Fontenoy. Donc, je rappelle que vous serez présente à Brest, hein, ce sommet, et vous dirigez donc la Maud Fontenoy Foundation. Merci. C'est vrai qu'Émilie Torgemène, la mer, c'est difficile d'en parler parce qu'en fait, on ne la voit pas, on ne la voit qu'une fois par an quand on va à la plage. On se dit, tiens, elle est plus chaude, c'est aussi bien, je pourrais me baigner plus facilement. C'est notre poubelle invisible, quoi. Hein.
C'est un peu ça. On a cru et qu'on pouvait tout y jeter. Alors, je ne voudrais pas donner de date parce que j'ai peur de me tromper, mais on a jusqu'à assez récemment jeté des déchets nucléaires dans la Manche. Ouais. Donc vraiment, on a cru que c'était un puits sans fond, on pouvait tout jeter. Et à contrario, on a cru aussi que c'était une corne d'abondance et qu'on pourrait tout continuer à pêcher, pêcher, pêcher et que tout se régénérerait. Donc oui, il y a un vrai problème qui était soulevé par Maud Fontenoy, c'est un peu notre méconnaissance des océans. Et là, eh ben, c'est intéressant d'aller regarder ce que font les chercheurs, d'aller écouter les navigateurs. Je pense qu'il est temps un peu de se cultiver, y compris sur nos océans.
Frédéric Dant et Maud Fontenoy le disaient, le rappelaient, la France est le deuxième pays au monde pour le plus grand espace maritime. Il n'y a que les États-Unis qui ont un plus grand espace maritime. C'est, nous, on a d'énormes espaces maritimes parce qu'on a des tas d'îlots, ce qui fait que tout au large de ces îlots, bah, tout ça, ce sont des mers françaises. C'est curieux parce que la France ne se vit pas, ne se conçoit pas comme un pays maritime ou comme un pays de pêcheurs. Non, il n'y a pas un énorme paradoxe là. Si, au fond, nous avons une énorme responsabilité. Que nous n'assumons, enfin, dont on n'est pas conscient, dont on a peu conscience.
Si, si, c'est fascinant. Depuis Louis XVI, il n'y a pas eu un souverain, un dirigeant de la France qui s'est intéressé à la mer. Et dans les candidats politiques, le seul qui connaissent à peu près, c'est Mélenchon.
Ah bon ?
Voilà, c'est tout. Le seul qui a au moins un intérêt sur la mer, qui a compris que la mer, effectivement, la France, c'était, c'est 5500 km de côte, c'est 8008 en comptant les dom-tom, c'est 10 600 000 km² de zone économique exclusive, c'est-à-dire de zone maritime sur laquelle la France n'a pas forcément tous les droits, mais en tout cas a le devoir de surveiller, de contrôler, de porter assistance.
Est-ce que ça nous sert à quelque chose ? Est-ce que la France est une chance pour la mer de ce point de vue ?
Ben oui, parce qu'il y a plein d'endroits, notamment dans le canal du Mozambique, il y a des conflits territoriaux avec les Seychelles, avec les Comores, avec Madagascar, parce que nos zones économiques exclusives autour des glorieuses, qu'on appelle les îles éparses, ces pays aimeraient bien pêcher là. Ben, mieux vaut que ce soit nous, c'est pas du mépris pour ces pays-là, mais on a au moins une marine et une police de l'environnement qui sont capables de réguler la pêche et notamment de faire face aux thoniers qui sinon risqueraient d'aider la mer. Et on a vu l'impact sur les terres australes et antarctiques françaises. J'en ai parlé, la légine, qui est un poisson très vendu en Asie, et un poisson abyssal qui se reproduit mal, très vendu en Amérique du Nord et en Chine. Les stocks avaient chuté depuis que la France y a dépêché un bâtiment de la marine nationale et un satellite quasiment à demeure. Globalement, les choses vont mieux.
Françoise Bimeux, on a vu les Marseillais ramasser les déchets sur les plages à Marseille. Le Parisien organise samedi prochain une opération Ramassons les mégots sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous avez l'impression, ou c'est un cliché, que la jeune génération est prête à faire des efforts que nous ne faisions pas ? Ou non, tout ça est un cliché. Jamais les jeunes générations n'ont eu envie de vêtements de fast fashion là, qui viennent d'Asie. Ils ont peut-être de beaux discours, mais dans les faits, y a beaucoup de pollution, de portions individuelles, etc.
Alors, il y a des contradictions chez les jeunes, hein, c'est sûr, vous venez de le dire. Moi, ce que je constate, c'est une très grande sensibilisation et des vraies questions, des vraies préoccupations pour l'environnement en règle générale. Et donc, oui, effectivement, il peut y avoir une contradiction parce qu'il y a une consommation qu'on pourrait peut-être critiquer. Mais d'un autre côté, il va y avoir une participation pour ramasser des déchets ou une participation à des ONG. On forme aujourd'hui des étudiants au niveau du doctorat qui après finissent finalement par aller vers des ONG parce qu'ils sont hyper sensibilisés et ils se disent que finalement ils seront beaucoup plus utiles sur le terrain que dans les laboratoires.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites pour changer le monde, c'est pas la politique, c'est les ONG. Hein.
Alors, la vision de ces jeunes-là, c'est qu'effectivement, l'ONG permet d'être sur le terrain, d'être dans l'action au quotidien. Il y a effectivement, on peut en discuter, beaucoup moins d'espérance envers les politiques. Mais d'ailleurs, on voit que l'environnement au sens large n'est pas vraiment présent dans les discours. Et même les médias n'interrogent pas particulièrement les candidats sur ces sujets. Et nous avons signé, enfin nous sommes 1400, à avoir signé une tribune dans ce sens. Et donc, Ensuite, il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées et qui montrent que dans la tranche 18-24 ans, la première préoccupation, c'est une préoccupation environnementale.
Alors, l'océan se réchauffe, on en a parlé, ce qui bouleverse la biodiversité, mais ce qui rend aussi cet océan plus agité, avec plus de tempêtes, des tempêtes qui détruisent nos habitations, qui peuvent laminer nos villes. Et pour l'année 2021, jamais les dégâts occasionnés justement par ce réchauffement climatique n'aura été aussi important, 150 milliards d'euros pour les compagnies d'assurance. Donc je vous propose juste de revenir sur les dégâts assurés provoqués par le réchauffement climatique en 2021, sujet de Françoise Vallée.
C'est une courbe de dépenses à la hausse. Elle atteint 150 milliards d'euros cette année. Derrière ce chiffre, la facture climatique de 2021.
Holy shit!
La catastrophe la plus coûteuse de l'histoire pour les assureurs a eu lieu cette année. En août, l'ouragan Ida frappe les États-Unis, 65 morts. Il détruit des territoires, anéantit des infrastructures. Les pertes sont estimées à 57,5 milliards d'euros. Un mois auparavant, des inondations ont dévasté l'Europe. Allemagne, France, Benelux sont sous les eaux. Les dommages s'élèvent à 38 milliards d'euros.
La situation est surréaliste. C'est fantomatique, choquant.
Des inondations dévastatrices ont lieu également en Chine. Puis en novembre dernier, au Canada. Incendies, sécheresse, gel, tous les continents sont touchés.
Nous, aujourd'hui, tout est mort, quoi. Moi, j'ai 80% de ma production qui est morte.
Le coût climatique s'accélère, plus 178% en 4 ans dans le monde. En France, les assureurs prédisent un doublement des sinistres d'ici 2050 et annoncent qu'ils ne pourront plus payer la facture.
Est-ce que les assurés vont pouvoir continuer à s'assurer avec des contrats qui vont coûter de plus en plus cher dans les années à venir ou est-ce que là on dit stop et on réfléchit à des vraies solutions?
Si rien n'est fait, les usagers pourraient voir leur tarif d'assurance augmenter de 200% d'ici 30 ans.
Françoise Vimeux, ce qui est frappant, c'est que quand on parle de réchauffement climatique, on se dit, tiens, on va souffrir de la hausse des températures, de la canicule, on va mourir de chaud. Et en fait, on s'aperçoit que les catastrophes, il n'est question que d'eau. On a vu dans ce sujet, on a parlé que d'inondation et d'eau. C'est ça le réchauffement climatique? C'est pas la hausse des températures, c'est les inondations?
Alors, je vous rassure, entre guillemets, les vagues de chaleur sont déjà et vont être un vrai problème. En 2021, on a battu le record de température enregistré en Europe, à Syracuse en Italie, 48,8 degrés. On a battu le record mondial de température dans la vallée de la Mort le 9 juillet, je crois que 54,4 degrés. Les gens qui étaient dans ces territoires à ce moment-là ont dû vraiment souffrir des vagues de chaleur. Ensuite, on parle énormément des pluies torrentielles parce qu'elles engendrent des dégâts qui sont vraiment à la fois coûteux, mais aussi, j'allais dire, extraordinaires dans le sens du
mot. On a vu Angela Merkel émue et qui pensait que ça ne lui arriverait jamais. Là.
Oui, parce que nous... Oui, les gens pensent peut-être qu'ils sont protégés pour une raison que j'ignore, et aussi parce que nous ne sommes pas du tout adaptés à ces pluies torrentielles, en particulier en Europe et sur le territoire hexagonal. Et nous savons que ces pluies torrentielles, eh bien, elles vont augmenter en intensité et en fréquence, et l'Europe est vraiment un des territoires touchés déjà et qui continuera à être touché.
On l'a vu, Frédéric Denry, enfin, on s'en est rendu compte avec la vallée de la Roya, mais les inondations, l'eau finalement fait beaucoup plus de dégâts et de morts même de tristesse que le feu, finalement, non? Est-ce que je me trompe?
Enfin, non. Vous savez, le grand historien du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie, dit que le premier tueur en série de l'histoire, c'est l'eau. Parce que l'eau, quand elle déborde ou quand elle n'est plus là, tue. Et face à l'eau, on ne peut rien faire, strictement rien. Vous pouvez faire toutes les digues que vous voulez, vous pouvez rehausser votre maison. Quand l'eau est là et reprend son lit, parce qu'à la vallée de la Roya, l'eau est revenue dans son lit naturel, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous opposer. De la même façon, quand il y a une énorme tempête, on ne peut pas s'opposer. On peut dépenser beaucoup d'argent à rehausser des digues pour préserver des infrastructures économiques indispensables comme les ports. Mais pour le reste, j'étais à Biarritz au mois de décembre, je me suis promené sur la côte, j'étais stupéfait de voir à quel point la côte est friable. Je n'avais pas enregistré le fait que partout il y a des panneaux qui disent « attention, risque de submersion, risque d'érosion ». Quand vous voyez la côte basque entre Biarritz et Mosgore dans les Landes jusqu'à l'Espagne, pouvez-vous dire que dans 10 ans, je ne suis pas sûr que le casino de Biarritz, par exemple, continue à officier. Pourquoi ? Parce qu'il y a le phénomène naturel d'une érosion des côtes sur une côte qui est très friable, qui est accentuée par le réchauffement climatique. Et face à ça, on ne peut rien faire.
Émilie Torjmet, oui,
je
t'en prie.
Je voulais rebondir sur une des phrases du sujet. Elle disait « si rien n'est fait, la facture va être multipliée par deux ». C'est tout l'enjeu, en fait. Et c'est l'adaptation. On attend là un rapport du GIEC dans les tout prochains jours, 10-15 jours. Sur comment s'adapter au réchauffement climatique. Évidemment, tous les États ont signé l'accord de Paris en 2015 pour essayer d'atténuer le réchauffement climatique, mais au point où on en est, et ben c'est ça, il faut se poser la question sur la vallée de la Roya qui est en train d'être construite. J'avais été y faire un reportage. On reconstruit, mais on s'écarte du lit. Il va y avoir espèce de corridor de sécurité en estimant qu'il y aura probablement d'autres épisodes méditerranéens violents comme celui-là qui pourraient emporter encore. Donc on s'écarte. Il y a le trait de côte, mais y compris des villes, Biarritz, mais Roubaix, Dunkerque, enfin, une partie importante des villes françaises vont devoir penser à la montée des eaux de mer. Donc comment est-ce qu'on adapte les villes ? Il y a beaucoup de collectivités qui sont en train de travailler là-dessus. Hein. Ce n'est pas des sujets faciles, mais je pense qu'en tout cas, en France, on commence à prendre un peu conscience de ces choses-là. Et puis il y a l'exemple toujours très frappant de Singapour qui déménage complètement sa capitale. Donc là, on est sur des dizaines de millions d'habitants, parce que là, eh ben justement, l'adaptation, c'est partir. Donc on est en train de travailler là-dessus, il ne nous reste plus que ça à faire, à vrai dire.
Françoise Vimeux, ça, la montée des eaux, c'est l'éléphant au milieu de la cuisine qu'on ne veut pas voir, là.
Ah ben, on ne veut peut-être pas le voir, mais on va être forcé de le voir à un moment. Je rappelle, la montée des eaux, c'est d'une part au réchauffement de l'océan. Ça se dilate. L'eau chaude occupe plus de place que l'eau froide. Mais depuis les dernières décennies, la contribution majoritaire à la montée des eaux, c'est la fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux. Et donc, cette montée des océans, elle vient participer à ce risque de submersion marine qui est de plus en plus important, en particulier lors des cyclones et surtout pour les territoires insulaires. Qui pour certains vont quasiment disparaître, on pense à la fin du siècle. Ça va dépendre bien sûr des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre que nous suivons au cours du 21e siècle. On est déjà à plus de 20 cm en moyenne du niveau de la mer depuis 1900. Les fourchettes qui sont attendues sont entre 40 cm et 1 mètre. Et dans le dernier rapport du GIEC, certains États ont même demandé à ce qu'on étudie des phénomènes très peu probables, mais qui ils se produisent, auront des conséquences vraiment dramatiques, ce qu'on appelle les événements de signes noirs, où on a par exemple des déstabilisations de la calotte antarctique qui viennent participer à l'augmentation du niveau des mers, mais là de manière vraiment assez catastrophique, avec une montée qui peut être de plusieurs mètres à l'issue du siècle et pour après.
En attendant, les dégâts sont déjà là et ils frappent des pays qui sont plus vulnérables, qui sont moins bien protégés face à ces cyclones et à la violence des cyclones. Des vents à 200 km/h, c'est ce qu'ont dû vivre les habitants de Madagascar le week-end dernier. Bien sûr, il y a eu des morts et des milliers d'habitants déplacés à cause des inondations. Vous voyez ce sujet de Claire Vérov.
Face à la force du cyclone, ces maisons de front de mer n'ont pas résisté. Elles ont été soufflées, réduites en des amas de poutres. Un peu plus loin dans la ville, des toits arrachés, des maisons éventrées. Il faut enjamber les décombres pour récupérer ce qu'il reste.
Ici, presque 95% de la ville a été détruite, pour ne pas dire 100%. Comme on voit maintenant, la route est coupée, la mer est montée. On implore l'État de venir nous secourir, au plus vite.
Cette nuit, l'œil du cyclone Batsirai a frappé la côte est de Madagascar. Des rafales à 235 km/h. Elles ont fait 10 morts sur l'île et près de 50 000 habitants sans foyer ce soir.
Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc Mananjar est dans la misère complètement.
Les distributions de nourriture s'organisent. La tempête tropicale s'éloigne maintenant, mais la reconstruction sera lente. Les associations disent craindre une crise majeure.
Frédéric Dan, une crise majeure. On s'apprête au XXIe siècle à avoir des réfugiés, non pas économiques, mais climatiques, mais qui viendront en plus avec le point vengeur, en disant tout ça, c'est de votre faute. C'est parce que ça n'est pas Madagascar, j'imagine, qui est à l'origine des émissions de la saturation de l'atmosphère par le CO2.
Bah pour les Iliens, oui, ils n'auront pas beaucoup de solutions. Après, il y a aussi un grand fantasme, attention, sur les réfugiés climatiques. L'Office des migrations internationales, l'OMI, ne les voit pas encore, au moins pour une raison simple, c'est que pour quitter son pays, il faut avoir franchement des très très bonnes raisons. Souvent, les gens qui migrent, ils restent à l'intérieur de leur pays. Et pour l'instant, le changement climatique n'a pas encore entraîné de situations qui font que la survie immédiate est strictement menacée. Mais il n'en reste pas moins que oui, là, les gens à Madagascar, les gens aux Comores, les gens sur l'île Maurice pourraient très bien aller taper à la porte de la Réunion simplement pour se protéger, parce qu'on est mieux protégé à la Réunion que sur ces îles-là, ne serait-ce que parce qu'on construit en dur et selon des normes qui ne sont pas celles qui sont là-bas. Mais on a connu la même chose à Saint-Martin il n'y a pas si longtemps. La plupart des maisons qui ont été explosées, c'était des cases en bois à peine fichées dans le béton. Donc ça, en fait, on peut un petit peu s'adapter si tant est qu'on construise un en dur, deux avec des toits qui sont capables de soulever, voire d'être emporté sans abîmer la maison. Mais c'est des normes de construction, comme pour les normes de construction anti-inondation, qui coûtent cher, qui ne sont possibles que dans des pays riches, avec un système assurantiel et réglementaire important. Ce n'est pas le cas dans ces pays pauvres.
Donc Françoise Vimeux, alors, on a vu la Réunion est capable de résister. Alors, il faut plus être en bord de mer, il faut être dans des habitations qui sont prêtes à résister à des vents de 200 km/h, un peu comme le Japon est capable de résister avec ses normes antisismiques à des tremblements de terre. Il faut penser à ça maintenant quand on construit.
Alors, on sait que pour nos outre-mer, en tout cas, on sait que le risque cyclonique va augmenter, hein, pour plusieurs raisons. D'abord, la surface de l'océan se réchauffe, donc les zones de vie où les cyclones peuvent se générer sont beaucoup plus larges. Il y a beaucoup plus de surfaces sur lesquelles les cyclones peuvent se générer. On sait qu'il ne va pas y avoir plus de cyclones, mais on va avoir plus de cyclones de catégorie 4-5, hein, comme le cyclone Irma qui était passé au niveau des Antilles, hein, qui avait été très dévastateur. On sait aussi, donc on en a parlé, que les risques de submersion marine associée à ces tempêtes et ces cyclones, je parle de tempêtes parce que la tempête Xynthia, il y a eu une submersion marine qui était absolument énorme, hein, une surcote d'1,60 m à La Rochelle, donc il n'y a pas que les cyclones, mais la montée du niveau des mers vient accentuer ce risque de submersion marine. Et puis enfin, on sait que les cyclones vont être plus pluvieux parce que l'atmosphère contient plus d'eau. Donc il y a un vrai risque de tempêtes et de cyclones. On parlait de vents de 200 km/h, effectivement, à La Réunion, il y a aussi eu des vents à 200 km/h, mais l'impact a été moindre parce que d'abord il y a une structure étatique qui organise l'arrivée du cyclone. On a Météo France qui passe en alerte jaune, orange, rouge et éventuellement violette. On a aussi, ça a été dit, hein, des constructions en dur, mais on ne peut pas dire aux gens qui habitent à l'île de la Réunion, n'habitez pas à côté de la mer. Pour les territoires insulaires, c'est un vrai problème. Et puis le territoire insulaire aussi, lorsqu'il est touché par un cyclone comme ça, c'est tout le territoire qui est touché en même temps. Lorsqu'il y a un problème dans la vallée de la Roya, c'est uniquement la zone méditerranéenne qui a besoin de secours et on peut amener les secours sur place. Lorsque vous avez un cyclone à Saint-Martin, on a bien vu, Saint-Martin ne peut plus par elle-même subvenir à ses besoins.
Il y a des zones que les hommes vont devoir quitter parce qu'ils seront devenus invivables, des régions.
Alors, on peut s'adapter à tout, mais il y a des zones où ça va être beaucoup plus dur de vivre, que ce soit à cause des températures, à cause des températures et de l'humidité, à cause de la multiplication de tempêtes, ou tout simplement à cause de l'élévation du niveau des mers, ou bien l'érosion du littoral qui vient être accentuée par cette élévation du niveau des mers.
Émilie Torchman, vous racontiez comment dans la vallée de la Roya, on reconstruisait en se préparant, en imaginant la suite. On a l'impression que on n'arrive pas à agir sur les causes de CO2, qui est un fatalisme, et donc on va plus agir sur les conséquences en essayant de s'en protéger.
Alors, on espère qu'on va faire les deux en même temps. Ça, c'est pour la version optimiste, officielle aussi. Mais, optimiste ou pas d'ailleurs, puisque même si on agit sur les causes, le réchauffement est déjà là. Et de toute
le coup
façon,
est parti.
Le coup est parti. Et alors, on parlait des populations de thon qui se sont régénérées dans la Méditerranée dès qu'on a arrêté de les surpêcher. Ça ne marche pas comme ça, le climat, Françoise Vimeux.
Il y a une inertie qui fait que...
Il y a une inertie qui fait de toute façon que le réchauffement est là. Donc l'adaptation, on y est obligé en réalité. Donc, Il n'y a plus qu'à.
On espère quand même qu'à Brest seront prises 2-3 décisions qui permettront de limiter la casse dans nos océans, hein, dont dépendent 70% de l'humanité pour se nourrir, pour, qui absorbe 90%.
Non, qui absorbe 23% du dioxyde de carbone, mais 90% de la chaleur excédentaire.
Voilà. Merci l'océan. Et on va essayer d'y prendre davantage soin. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée. À demain.